Bonjour et merci pour votre accueil dans cette chapelle dans laquelle j'ai plein de souvenirs qui datent pour la plus grande partie de plus de 20 ans maintenant. C'est fou ce que le temps passe vite, hein. Bientôt un quart de siècle. Mais c'est vraiment une joie de vous retrouver ce matin et de retrouver aussi beaucoup de visages que je n'avais pas l'habitude de côtoyer il y a 20 ans. Donc voilà, c'est une grande joie. Je vous salue aussi de la part de mon épouse Sandrine, qui est ce week-end est particulièrement impliquée à aider dans son déménagement ma belle-sœur et mon beau-frère. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis seul ce matin. Je vais peut-être juste donner une ou deux nouvelles rapidement et puis me présenter à peine, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Franck, mon épouse Sandrine, j'ai un fils qui s'appelle Simon, qui a 18 ans maintenant, Lucie qui va fêter ses 9 ans le 27 avril. Et ça fait maintenant près de 15 ans qu'on habite en France pour un travail d'implantation d'église. On a d'abord travaillé à l'implantation d'une première communauté du côté de Mech, sur la route entre La Chaux-de-Fonds et Montbéliard, si vous situez un petit peu. Et puis ensuite, on a déménagé à Valdaon pour le démarrage d'une seconde communauté à 40 km sur la route, en gros, entre Morteau et Besançon. Et puis nous sommes actuellement, depuis quelques mois, à Frasnes pour le démarrage d'une nouvelle communauté, tout en accompagnant encore la petite communauté pionnière de Valdaon. Donc voilà, on circule derrière la frontière, et puis en parallèle, on a toujours gardé nos liens, nos relations en Suisse, parce que dans la première période où j'étais sur Mech, j'accompagnais une église au Locle. Ensuite, dans la période sur Valdaon, j'ai accompagné pendant un temps une église sur Fleurier, et depuis 2010, donc, j'ai repris la direction de Radio Réveil, que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Donc voilà, je partage toujours un peu mon temps entre la Suisse et la France, et puis aussi un ou deux voyages en Afrique. Au cas où ça intéresse certains d'entre vous, j'ai quelques CD d'émissions de Radio Réveil avec moi que vous pourrez prendre tout à l'heure si vous y avez de l'intérêt. Voilà, je vais simplement partager la parole qui est sur mon cœur pour ce matin. C'est un texte, je pense, que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous. Je vais lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Mais avant, j'aimerais simplement prier courtement. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est vivante, parce que même si elle nous rapporte des histoires qui se sont déroulées il y a plusieurs centaines d'années, plusieurs millénaires, Seigneur, ces histoires peuvent parler à nos cœurs aujourd'hui. Et je te demande que par ton esprit, tu ouvres nos cœurs à recevoir quelque chose de toi ce matin, que tu puisses nous parler, que tu puisses te révéler à nous. Et que ce soit pas la parole de Franck Jeanneret ce matin, mais une parole fraîche qui vienne de toi. Amen. Le roi Achab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir et dit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Puis il se coucha et s'endormit sous le genêt, mais un ange vint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange. » Et il vit en effet près de lui une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. » Élie se leva donc pour manger et boire, puis avec les forces trouvées dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Seigneur Dieu de l'univers, Je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi, je vais passer. Aussitôt, un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un léger souffle. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau, il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit « Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais le Seigneur lui dit « Va, retourne par le même chemin à travers le désert et rends-toi à Damas. Tu iras y consacrer de ma part Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras consacrer Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat, comme roi fils de Shaphat d'Abel-Méola, pour te succéder comme prophète. Ceux qui échapperont à l'épée d'Hazaël seront mis à mort par Jéhu, et ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Mais je laisserai survivre 7000 hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne se seront pas mis à genoux devant le dieu Baal et n'auront pas donné de baiser à ses statues. » Mes amis, quelle situation pour Élie. On voit ici avec Élie un homme déçu, profondément déçu. Ce qui est clair dans le texte, c'est qu'il est déçu déjà de son peuple, d'un peuple dont le cœur est endurci, d'un peuple dont le cœur est éloigné de Dieu. Alors même que des miracles viennent de se produire, que le feu est tombé du ciel, alors même que d'autres miracles se produisent, le peuple veut le mettre à mort avec Jézabel. Élie, s'il est déçu du peuple, est déçu de lui-même. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Et puis, mais ça le texte ne le dit pas, peut-être Élie est-il déçu de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est déçu, quand on vit dans la déception? La plupart du temps, on s'isole. Et c'est ce que va faire Élie, comme probablement la plupart d'entre nous le ferions. Élie va s'isoler, alors pour sauver sa vie, mais pas que, parce que le texte nous précise qu'il renvoya son serviteur. Élie reste enfermé en lui-même, dans sa déprime, dans sa déception. La pire adversité quelque temps auparavant n'a pas eu raison de lui, mais là, Élie s'effondre. Mes amis, ce matin, une première chose que j'ai à cœur de vous partager, c'est de dire que la déception, quand elle est dans nos vies, comme dans celle d'Élie, nous devons l'affronter. Parce que la déception nous éloigne de Dieu. Et nous éloigne aussi souvent les uns des autres. La déception nous amène à nous replier sur nous-mêmes. Alors c'est vrai, des fois c'est utile de prendre du recul, comme on dit. Mais vous savez, ce que j'ai observé dans le ministère, c'est que les trois quarts du temps, quand les gens disent « j'ai besoin de prendre du recul », c'est un recul de longue durée et un recul qui ne résout rien. Oui, c'est normal d'avoir besoin un moment de se mettre à l'écart. Mais est-ce que dans mes déceptions, je reste finalement constamment à l'écart? Est-ce que j'affronte ces déceptions? Quand nous nous isolons durablement, et je ne parle pas forcément de plus avoir de relation avec personne, mais dans les domaines particuliers de notre déception, nous restons enfermés dans notre expérience sans voir la sortie. Quelles sont les causes de la déception? Il me semble en voir une majeure. Mes amis, je pense que la plupart du temps, quand nous sommes déçus, c'est parce que nous vivons dans l'illusion. Nous ne pouvons pas vraiment être déçus de la réalité. Nous sommes déçus quand l'illusion est levée. L'illusion sur nous-mêmes, sur nos forces, sur nos capacités. Élie, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Il avait des illusions sur lui-même. J'imagine Élie se dire, il y a eu d'autres prophètes avant moi. Mais moi, j'aime vraiment le Seigneur. Moi, je vais vraiment changer les choses. Moi, le Seigneur va vraiment m'utiliser. Vous allez voir, ça va barder. Ça va... Israël va revenir au Seigneur. Et ce n'est pas ce qu'Élie voit. Élie voit les miracles, mais il ne voit pas le résultat qu'il espère. Il n'est pas aussi fort qu'il le pensait. Il n'a pas le pouvoir qu'il pensait avoir. Il a bien le pouvoir d'interpeller, il n'a pas le pouvoir de changer les cœurs. Parfois, nous avons des illusions sur les choses. Vous savez, ces illusions, quand j'aurai ce modèle de voiture, je serai content, je serai heureux. Quand on aura construit notre maison, quand j'aurai acheté mon appartement, ça ira beaucoup mieux. Et puis... bien souvent, il y a un plaisir, il y a une joie, mais éphémère et qui ne satisfait pas le fond du cœur. L'illusion que peuvent nous donner les choses sur leur capacité à nous donner la joie et la paix. Et puis, les illusions sur Dieu. J'observe, j'ai observé dans ma vie, et il me semble observer autour de moi que bien souvent, nous faisons un Dieu à notre image, alors que c'est Dieu qui nous a fait à son image, mais nous avons tendance à faire un Dieu à notre image, pour toutes sortes de raisons, qui nous empêchent de rencontrer le vrai Dieu. Quand je me sens un peu coupable, j'aurais tendance à faire de Dieu un Dieu rose bonbon. Quand je m'estime être un très bon chrétien et que mon voisin est un plouc, Dieu pourrait avoir une matraque pour faire comprendre à ce cher voisin à quel point la justice est importante. Je décide comment doit être Dieu pour répondre à mes envies, à mes besoins. Et je fais un Dieu à mon image. Les illusions, nos attentes irréalistes, tiens, par exemple, dans le couple, bien souvent, les femmes attendent des hommes qu'ils soient presque Dieu. Mais, des fois, les hommes attendent de leur femme qu'elle soit leur mère. Bien des problèmes de couple sont liés à nos illusions, à nos attentes irréalistes, à nos images déformées. on a aussi nos déceptions avec Dieu parce qu'on attend de Dieu un Dieu qui me maintient en enfance, un Dieu qui m'évite les problèmes. Comment est-ce qu'on grandit ? En affrontant certaines choses. En fait, la déception, ce n'est que d'une certaine manière découvrir la réalité. Élie est en train de découvrir la réalité sur lui-même, la réalité sur le cœur de son peuple, et il va découvrir une autre réalité sur qui est Dieu. En fait, la déception, si elle est bien vécue avec le Seigneur, elle est une chance. Elle est une occasion d'aller plus loin. La déception nous libère du voile de nos illusions. Alors pourquoi la déception nous enferme-t-elle plus qu'elle nous libère ? Peut-être parce que bien souvent, on préfère rester dans le monde du rêve. C'est beaucoup plus facile à gérer. Tiens, si ma femme n'est pas la mère ou ma mère, comme j'espérais, ça va m'obliger à me bouger, à prendre mes responsabilités. Et puis si mon mari n'est pas Dieu, ça va aussi m'obliger à ne pas faire de mon mari un dieu. Ça va m'obliger à vivre autre chose. Alors, bien souvent, on préfère rester dans le monde du rêve. On préfère rester dans nos illusions parce que ça va nous coûter de sortir du monde du rêve. Grandir, c'est devenir responsable. Grandir, c'est voir la réalité en face, c'est l'affronter. Grandir, c'est cesser de se cacher. Et quand on a compris ça, souvent, et je parle de ma propre vie aussi, hein, je l'ai vu dans ma propre vie, on met en place des stratégies d'évitement de la déception. On évite les situations relationnelles délicates. Ça peut aller de choses pas trop signifiantes à un retrait presque total des relations. Pour éviter d'être blessé, comme on dit. Mais cette attitude ne construit rien dans notre vie. Et on peut même en venir à éviter Dieu. Parce finalement, Dieu, on ne le maîtrise pas. Et ça nous préoccupe, ça nous inquiète. Ou alors, on commence de construire des relations basées sur un mensonge pour se maintenir dans l'illusion. Il y a une femme aujourd'hui décédée que j'ai beaucoup appréciée, c'était la mère d'un ami. Et je l'ai vue dans... Elle est passée par un divorce. Et dans ses relations de couple, avec deux, trois hommes, elle revivait chaque fois le même schéma. Elle ne voulait pas voir la problématique des personnes avec qui elle commençait une relation. Il y a des choses qu'elle ne voulait pas affronter. Alors le schéma se répétait simplement. C'était une femme de bien que j'ai... beaucoup apprécié amicalement, mais qui a souffert parce qu'il y a des choses qu'elle ne voulait pas affronter. Je profite de ce matin, le but c'est pas de parler du couple, hein, mais on se rappelle aussi que il y a plus de divorces dans les seconds mariages que dans les premiers. Parce que je pense que bien souvent, on entre dans la nouvelle relation sans avoir affronté les causes des difficultés de la première. On construit par là même, pour éviter la déception, des relations qui n'engagent pas. On construit un fantasme. Alors la question que j'aimerais qu'on puisse se poser, c'est comment affronter la réalité sans être dépressif ? Parce que c'est peut-être une question qu'on se pose. Franck, c'est bien gentil de nous inviter à voir la réalité en face, mais la réalité, elle n'est pas toujours très drôle. Hein? Elle n'est pas toujours évidente. Laisse-nous un peu du rêve. Une chose qui peut nous aider à affronter la réalité, c'est que déjà, un, la réalité ne peut pas être pire. C'est la réalité, point à la ligne. Tu ne peux pas tomber plus bas que la réalité. Et puis la très bonne nouvelle, c'est que c'est dans la réalité que Dieu nous rejoint. C'est là qu'il est avec nous. Dieu n'est pas présent dans nos fantasmes. Dieu n'est pas présent dans nos illusions. Dieu est avec nous dans la réalité. Et c'est vraiment ce qu'on s'est rappelé à Pâques. Jésus nous a rejoints dans notre réalité humaine. Il est venu nous rejoindre dans nos souffrances. Il a donné sa vie et il est ressuscité en passant par la réalité de l'injustice, par la réalité du rejet, par la réalité de l'incompréhension. C'est là que le Seigneur est venu nous rejoindre, dans notre réalité humaine. Dieu s'est fait homme. Et quand on regarde nos frères et sœurs persécutés actuellement, et ils sont nombreux dans le monde, moi je suis toujours émerveillé de voir comment dans ces situations terribles, Dieu les rejoint. J'entendais encore témoignages de ces femmes, de ces 21 coptes qui ont été décapités par l'État islamique en Libye, et ces femmes qui, pour plusieurs, témoignaient du pardon. Parce que Dieu les rejoint dans leur réalité. Et quelle puissance! Ça interpelle l'Égypte entière, ça passe à la télévision. Ça ébranle jusqu'au théologien islamique de Al-Azhar. Notre problème souvent, c'est qu'on cherche notre sécurité en dehors du Seigneur. Alors comment va faire Élie pour sortir de sa déception? Élie va devoir d'abord reconnaître sa situation. Et puis il va devoir l'exprimer. Moi je trouve extraordinaire le Seigneur comment il fait avec Élie. Quand je lis le texte, que fais-tu ici Élie? Eh oh Seigneur, t'es pas au courant? T'as pas vu? Hein, moi j'aurais été Élie, enfin, j'ai l'impression que tu rigoles ou quoi? Là je te sers depuis plusieurs années, tu me demandes ce que je fais ici? En tout cas Élie, c'est quand même pas comme ça qu'il répond. Élie, il verbalise sa frustration, son amertume, sa souffrance. Mes amis, trop souvent, nous gardons en nous-mêmes nos déceptions. Le point de vue d'Élie n'est pas juste, il est incomplet, mais il faut qu'il puisse l'exprimer pour que Dieu puisse le rejoindre là-dedans. J'aimerais vraiment vous encourager à oser dire, à verbaliser devant Dieu en premier lieu vos déceptions. On a tous des tempéraments, des caractères différents. Moi, je vois les choses qui m'atteignent vraiment en profondeur. J'ai de la peine à ouvrir la bouche. Pourtant, les gens qui me connaissent savent que j'ai pas de peine à parler en général. D'ailleurs, la grand-mère de Sandrine a dit à mon fils Simon, un jour, toi, tu vas être comme ton père, tu vas gagner ta vie avec ta langue. Mais quand il s'agit... Voyez l'opinion qu'on a des pasteurs. Hein, c'est bon. Mais quand il s'agit d'exprimer certaines souffrances, certaines déceptions, des fois j'ai de la peine à les sortir. Je tourne toutes mes pensées dans ma tête, mais pour dire, Seigneur, voilà ce que je ressens, voilà comment je vois la situation. Qu'est-ce que j'ai de la peine des fois? Et pourtant c'est là que commence le chemin de guérison, c'est là que commence le chemin de restauration, c'est là que commence le rétablissement. Job, l'exemple de la souffrance par excellence, il a parlé à Dieu, il a dit comment il voyait les choses. Il disait des choses justes et il disait des bêtises. Dieu lui a pas tenu rigueur les bêtises. Dieu s'est révélé à lui. Parce que Dieu sait qu'il y a tout ça en nous. Il faut juste que ça sorte. Alors, Élie l'a exprimé, et puis Élie a fait une autre chose. C'est qu'il a arrêté de fuir, il s'est laissé rencontrer par Dieu. Et cette rencontre, elle est extraordinaire. Parce que Élie, jusque-là, c'est quand même un type un peu violent. Avec l'histoire des prophètes de Baal à décapiter, enfin son zèle pour Dieu, il est... On a l'impression que pour lui, Dieu, c'est tonnerre, tornade et compagnie. Et puis là, Dieu prend le temps d'expliquer à Élie autre chose. Vous avez vu, hein, un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre et il n'était pas présent dans le feu. Il était dans le doux murmure, dans la brise légère. Élie ne connaissait pas vraiment ça avant. Élie rencontre Dieu autrement. Dans son amour, dans sa grâce, dans sa compassion, il y a autre chose qui s'ouvre pour Élie. C'est comme si Dieu dit à Élie, « Mais Élie, je vois bien la situation de mon peuple. Je vois bien ta situation. Mais Élie, tout ne se joue pas aujourd'hui. Je suis présent aussi, dans la douceur, dans la discrétion. Mon œuvre se fait. Élie, c'est pas fini. Tout ne dépend pas de toi, tout ne dépend pas de ta génération. Il y aura Élisée, il y aura d'autres rois. Il y a un avenir, Élie. Il y a un avenir. Au-delà de toi-même, je travaille dans le temps. Je travaille des fois avec force et fracas, mais souvent dans la discrétion. Et on va voir d'ailleurs dans la génération d'Élisée, on va voir beaucoup de miracles de compassion. Il y aura une autre dimension encore que dans le ministère d'Élie, dans le ministère d'Élisée. Est-ce que Élisée n'a pas reçu ça en partie en héritage d'Élie et de son expérience? Il y a une perspective d'avenir. Et puis Élie, tu sais, tu n'es pas seul. Il y en a 7000 qui ne fléchissent pas le genou devant Baal. Je suis resté moi seul. Ça aussi, des fois, dans nos déceptions, on a l'impression qu'on est, on est les seuls vrais qui restent, on est le seul vrai ou la seule vraie. Quelle illusion! Il y en a d'autres. Et à partir de là, Élie peut repartir pour, si vous me passez l'expression, presque une seconde vie, un second ministère qui sera différent de la première partie du ministère. Ça sera une seconde vie beaucoup moins isolée. Une seconde vie qui prépare un avenir pour Israël. Une seconde vie où Élie ne sera plus centré sur lui-même, mais il pourra se centrer sur Dieu d'une autre manière et laisser un bel héritage pour Élisée, mais pour nous aussi jusqu'à aujourd'hui. Alors que le Seigneur nous aide à nous laisser rencontrer dans nos déceptions, j'aimerais te dire ce matin, c'est peut-être le lieu où tu as été le plus déçu, où tu as le plus souffert, c'est dans ce lieu-là que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. C'est dans ce lieu-là que le miracle est appelé à se produire. C'est dans ce lieu-là que ta vie est appelée à être changé, transfiguré d'une certaine manière. C'est dans ce lieu-là que tu vas connaître Dieu comme tu ne l'as pas encore connu jusqu'à ce jour. C'est dans ce lieu-là que tes idoles vont tomber et que la gloire du royaume va se manifester. C'est là que ça se passe. On a un Dieu tellement bon, tellement grand, qui nous aime tellement profondément qu'il n'a pas envie que nous restions dans nos illusions. Vous savez, il y a ce verset qui dit que notre Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Moi, je trouvais au début de mon parcours de foi que c'était vraiment exagéré, ce verset. Par rapport à la manière dont je le comprenais. Et aujourd'hui, je trouve que ce texte est tellement vrai. Je ne vois pas des morts ressuscités tous les jours, mais Dieu fait vraiment au-delà de ce que je demande ou ce que je pense, dans la manière dont je vois, dont il agit au milieu de nous, dont il agit dans ma vie, dont il agit dans le monde. Il fait au-delà. Quand vous avez ces femmes d'hommes décapités par Daesh qui disent « Si un gars de Daesh arrive, je lui ouvre la porte de ma maison », y a-t-il quelque chose de plus puissant que ça? Mes amis, Dieu peut faire dans nos vies, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il en a la force, la puissance. Il le fait et il le fera. Amen. J'aimerais encore prier. Seigneur, tu nous connais ce matin chacun et chacune par notre nom. Tu connais ce matin nos cœurs. Tu sais ce qui s'y trouve logé. Et Seigneur, ce matin, plutôt que de se comparer les uns les autres, comparer nos cœurs, Seigneur, je te demande ce matin que tu viennes dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous pour nous rejoindre là où il y a une déception profonde qui nous tient enfermés, qui nous isole des autres ou de toi. Et j'aimerais te demander simplement que tu nous aides, comme Élie, à reconnaître cette réalité de notre cœur, à l'exprimer et à te laisser nous rejoindre pour que nos vies soient transformées, pour que de nouveaux départs puissent être possibles. Seigneur, je te prie ce matin qu'il y ait une guérison qui s'opère dans nos vies, une guérison dans laquelle nous sommes comme Élie acteurs avec toi, où le miracle vient de toi, mais où nous sommes disponibles pour accueillir cette action. Seigneur, je te prie qu'en même temps qu'il y a la restauration, tu accordes aussi la consolation. Seigneur, je crois qu'il y a aussi pour plusieurs d'entre nous souffrance liée à des pertes profondes. Pas juste des déceptions, mais des pertes profondes. Et je te prie, Seigneur, là aussi, qu'il y ait une ouverture pour la consolation. Seigneur, je te prie de délier nos langues pour que nous puissions dire ce qui est dans nos cœurs et dans nos vies. Par la grâce et la puissance de ton esprit, et dans le nom de Jésus. Amen.